Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire de cette édition, au Moyen-Orient, l'Iran a ciblé des installations américaines de radars et de défense antiaérienne dans le Golfe et a averti que les États-Unis d'attaques encore plus puissantes à venir. En France, jamais en 20 ans de mesure autant de surfaces n'ont brûlé dans le pays à la mi-juillet, selon le système européen EFIS, après notamment les incendies dans le sud et en région parisienne ce mois. Et le projet de loi d'urgence agricole a été adopté dans la cacophonie hier par une assemblée nationale fracturée sur la question des pesticides. Plus de détails à suivre dans notre édition. Dans l'actualité au Moyen-Orient, l'Iran a ciblé des installations américaines de radars et de défense antiaérienne dans le Golfe, notamment à Bahreïn, et a averti les États-Unis d'attaques encore plus puissantes à venir. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont annoncé de leur côté un blocus maritime de l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde et qui devrait être contraint à contourner le détroit d'Ormuz. Au Liban, l'armée libanaise a annoncé avoir entamé son déploiement dans un village du sud du pays dont l'armée israélienne contrôlait les abords jusqu'ici dans le cadre d'un accord avec Israël sur les zones pilotes parrainées par les États-Unis. L'ONG Médecins Sans Frontières réclame la libération immédiate de tous les soignants palestiniens détenus par Israël dans un communiqué. Elle réclame notamment la libération de Houssam Abou Safiya, pédiatre et directeur de l'hôpital Kamal Adwan à Gaza, détenu depuis décembre 2024. Dans le reste de l'actualité internationale au Venezuela, le double séisme du 24 juin a fait plus de 5000 morts, selon un nouveau bilan provisoire. Coup de projecteur maintenant sur la politique migratoire européenne. Le Parlement européen a récemment adopté le projet de hub de retour. Il s'agit de centres de rétention situés en dehors des frontières de l'Europe et où pourraient être envoyées des personnes migrantes déboutées de l'asile. Un vote qui, pour la députée européenne Fabienne Keller, marque un changement profond de la politique migratoire de Bruxelles.
Il marque un changement profond qui caractérise ce nouveau mandat. Depuis 2024, depuis la dernière élection européenne, nous avons en fait une majorité alternative qui est composée du PPE et de l'extrême droite, là où depuis longtemps au Parlement européen, c'était une majorité autour du centre avec les socialistes et le PPE qui était généralement opérationnel pour l'ensemble des textes. Donc un texte sur les retours qui sont possibles. Donc on peut envoyer des familles dans un pays tiers, dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine, avec lequel elles n'ont aucun lien, ce qui n'est pas du tout respectueux de leurs droits fondamentaux, ce qui ne fait aucun sens pour les enfants et les familles.
Et on comprend que ce qui vous inquiète, c'est bien entendu ce texte, ses conséquences, mais aussi la majorité politique qui a rendu possible son adoption.
Bien sûr. Cette majorité politique, elle s'exprime désormais sur les textes migratoires, d'une part, et d'autre part, sur les sujets de l'environnement. Ils la conduisent, sous le prétexte d'une simplification, à un détricotage d'un certain nombre de textes protecteurs, comme par exemple celui sur la déforestation. On avait voté au mandat précédent le principe de ne plus importer des produits issus de la déforestation. La forêt dans le monde, c'est le principal puits de carbone. Cette réforme a été reportée avec cette majorité composée avec l'extrême droite.
La députée européenne Fabienne Keller au micro de François-Xavier de Calonne. Elle sera l'invitée de Pluriel ce soir à partir de 19h. En France, jamais en 20 ans de mesure autant de surfaces n'ont brûlé dans le pays à la mi-juillet, selon les données satellitaires du système européen EFIS. Après notamment les vastes incendies dans le sud et en région parisienne ce mois-ci, plus de 42 000 hectares ont brûlé dans le pays sur la période. Et les surfaces brûlées cette année sont déjà nettement supérieure à l'ensemble de l'année 2025. On l'a évoqué la semaine dernière, le vote à l'Assemblée nationale de la très contestée loi d'urgence agricole. Au cours d'une séance très houleuse hier soir, cette loi rendant possible la réintroduction de certains pesticides a finalement été adoptée avec 296 voix contre 224. Le texte poursuit sa route au Sénat ce soir, dernière étape avant son adoption. Clara Dubanchet, son adoption marque-t-elle une vraie rupture au gouvernement ?
Effectivement, Nawel, l'hémicycle est divisé, on le sait. La gauche, insoumis, écologistes et socialistes ont voté contre, mais n'ont pas pesé suffisamment lourd face aux voix du Rassemblement national et des deux tiers du Bloc central, où tous ont voté pour. Cette proposition de loi divise surtout le camp gouvernemental. Au cœur du débat, un article du texte donnant la possibilité à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de réintroduire à titre dérogatoire et sous condition deux pesticides interdits en France, mais autorisés dans l'Union européenne, l'acétamipride et le flupyradifurone. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, a appelé la semaine passée à ne pas rejeter un texte apportant des réponses concrètes et attendues pour les agriculteurs. Elle s'est dite très satisfaite de son adoption ce matin sur France Inter.
Je remercie les 296 députés qui ont adopté cette loi d'urgence agricole, dont je veux rappeler qu'elle est née des manifestations début d'année, qu'elle a été travaillée avec les agriculteurs, qu'elle est attendue, qu'elle est conséquente. 68 articles dans cette loi qui vont répondre concrètement aux attentes des agriculteurs. Et hier soir, les députés ont fait œuvre utile pour l'agriculture française.
La ministre de l'Agriculture au micro de France Inter. Tandis qu'une autre ministre, celle de la Transition écologique, Monique Barbu, déplore l'issue du vote. Personnellement opposée à la réintroduction de l'acétamipride, elle envisagerait, selon son entourage, de remettre sa démission au Premier ministre qui la reçoit ce midi en cas d'adoption définitive ce soir au Sénat. Pour le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, cette loi utile à la souveraineté alimentaire de la France ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques, ni être résumée à ce seul article.
Merci Clara Dubanchet pour toutes ces précisions. Et plusieurs associations écologistes, dont Greenpeace, sont montées au créneau pour dénoncer cette loi d'urgence agricole et dénoncent du mépris et un texte non équilibré qui autoriserait l'utilisation de pesticides interdits en France. Dans un tout autre volet, la justice a annoncé hier l'ouverture d'une enquête après le suicide d'un jeune homme de 21 ans, victime selon ses parents de harcèlement raciste dans le village de Château en Isère, où certains habitants dénoncent l'existence d'un racisme de base. Regard maintenant sur la vieillesse. Aujourd'hui en France, il vient d'achever le tour de France des maisons de vacances de l'association des Petits Frères des Pauvres. Alain Villèze, ex-président de l'association et président de l'association de gestion des établissements, revient pour Radio Orient sur la vieillesse et sa définition aujourd'hui.
Les vieux, les aînés, ce sont à minima deux générations de personnes qui ont toutes eu des histoires singulières, qui ont eu des conditions de vie déterminées, qui influent beaucoup sur la façon dont ils vivent leur retraite.
Et donc, beaucoup de personnes âgées ne se reconnaissent pas comme telles aujourd'hui. Ça, c'est aussi un élément important. Qu'est-ce qu'une personne âgée ?
Justement, administrativement, une personne âgée, c'est une personne qui a plus de 60 ans. Alors qu'à l'échelle européenne, d'ailleurs, la barre est mise à 65. Mais en France, on a beaucoup d'allocations, notamment les allocations prévues pour les personnes âgées, les différentes aides qui peuvent exister, sont cantonnées aux personnes de plus de 60 ans. Donc le seuil, c'est... C'est l'héritier, évidemment, de l'abaissement de l'âge de la retraite en 81.
Mais aujourd'hui, on en est très loin.
Il y a deux notions qui se déconnectent. Que maintenant, on a toute une, d'ailleurs, une catégorie de gens, de jeunes retraités qui ont eu des carrières pleines, qui effectivement ont un niveau de vie plus que correct, quelquefois. Mais de là à en faire une génération de nantis, notamment détiendrait tout le capital et dans le fond, réduirait la jeunesse à. Vivrait à crédit sur le dos de la jeunesse, quoi. C'est une idée qui court beaucoup. Nous sommes là pour rappeler aussi qu'il y a des personnes âgées qui sont dans des situations d'extrême pauvreté. Puis de toute manière, il y a un problème qui touche à ce moment-là toutes les personnes, mais principalement des personnes de plus de 75 ans, voire de plus de 80, 85 ans. C'est la la perte d'autonomie.
Et la question de la dépendance, hein, ça, elle est fondamentale, cette question, elle se pose d'ailleurs pour les enfants aussi, oui.
Absolument. Et donc, cette perte d'autonomie, alors effectivement, elle a aussi un coût pour la collectivité, mais c'est aussi la contrepartie d'un système de protection sociale qui veut que la sécurité sociale a notamment été créée pour venir en aide justement aux personnes en fonction de leurs besoins, sous réserve évidemment qu'ils aient également contribué à la hauteur de leurs moyens.
Alain Villez, président de l'association de gestion des établissements, au micro de François-Xavier de Calonne. Et enfin, Météo France va lever la vigilance orange canicule dans le Gard et les Bouches-du-Rhône à partir de ce soir, tandis que l'Hérault, le Var et la Corse sont maintenus à ce niveau d'alerte, au moins jusqu'à demain. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.